Alors donc avec Madeleine Farc, donc pour connaître un peu mieux cette chapelle Saint-André à Neuvy-le-Roi. Et la première chose moi qui m'a frappé à la chapelle Saint-André, c'est cette inscription à l'entrée où je crois est indiqué que la chapelle date du 6e au 16e siècle, ce qui semble être une période déjà très longue, mais aussi très ancienne, le 6e siècle. Je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent de ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'elle est vraiment si ancienne, cette chapelle?
Alors, si vous voulez, il n'en reste rien du VIe siècle, bien entendu. Et ce n'était pas une chapelle, c'était une église, en fait. Hein. Si on voulait vraiment dire les choses, il faudrait que nous disions ancienne église Saint-André. Mais son rôle secondaire après dans l'histoire a fait que le terme chapelle est devenu, a été adopté. Alors, 6e siècle, on en est sûr dans la mesure où on a un récit de Grégoire de Tours, qui était donc l'évêque de Tours et qui était un grand historien, et qui raconte la fondation de cette église. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien du 6e siècle, bien sûr, on comprend bien. Mais il raconte donc dans ses cartulaires que personne ne suis absolument pas capable de lire sans latin et avec l'écriture, mais on a les traductions, et il explique qu'à Novus Vicus, il y a un guerrier, enfin bon, c'est toute une histoire qui serait un petit peu longue à raconter, un guerrier qui part combattre avec un fils de Clovis, et puis c'est une grande période de reliques. En fait, les reliques sont très importantes pour fonder des églises, et il sauve les reliques d'une église en flammes, il les rapporte à Novus Vicus, et il les pose dans l'église qui existe déjà, l'église Saint-Vincent actuelle, et puis ensuite il crée une église. Donc on a ce texte qui est très très connu, qui est fondamental, donc où on sait qu'il y a déjà à Neuvy-le-Roi deux églises à cette époque-là. Et une agglomération gallo-romaine qui est bien organisée avec deux églises. Donc, fondation 6e siècle, c'est sûr. Maintenant, il est bien évident que il n'en reste absolument rien. Voilà, c'est uniquement la fondation.
Est-ce que sur le village, il y a d'autres endroits où on a trace d'anciens vestiges gallo-romains ou...
Alors oui, il y a eu des travaux d'archéologues et il y a des sites gallo-romains sur la commune. Oui, tout à fait. Oui, il y en a plusieurs. Il y a eu des travaux très intéressants qui ont été faits. Oui.
Et donc l'ancienne église Saint-André, comment a été choisi le patronyme au début? Est-ce qu'on le
Alors,
sait?
c'était des reliques. Ils ont
D'accord.
rapporté les reliques de Saint-André et de Saint-Saturnin, et d'où Saint-Vincent, c'était les reliques de Saint-Vincent, apportées d'Espagne. Enfin, vous savez, tout ça, on prenait des petits morceaux de pierre, de tombeaux, des bon, on n'est encore pas si loin, finalement, de la chrétienté naissante. Et en plus, Grégoire de Tours était très passionné par Saint-André. Il avait un culte particulier pour Saint-André. Donc, il explique tout ça d'une façon très très claire. Et apparemment, personne n'a mis en question ces textes. Voilà.
Donc dès le départ, donc c'était assez exceptionnel quand même d'avoir deux églises
Oui,
dans une si
oui, oui.
petite
Oui.
surface, superficie, et c'était deux monuments qui étaient rattachés de toute façon à Tours.
Alors, pour la chapelle Saint-André, l'ancienne église, malgré toutes les recherches qu'on a pu faire, on ne sait pas très bien de quelle autorité ecclésiastique elle dépendait. Alors ensuite, elle est reconstruite au Xe siècle, comme souvent, comme même l'église Saint-Vincent ici. C'était quand même des monuments assez frustes, donc il fallait après les reconstruire plus. Et vous avez sur le mur nord un appareillage, un petit appareillage romain, tout le mur un appareillage romain, qui est assez intéressant à regarder, qui lui, effectivement, semble, avec les travaux qui ont été faits d'autres archéologues, semble dater effectivement d'une période très lointaine, peut-être le 10e siècle. En tout cas, c'est un des monuments les plus anciens d'Indre-et-Loire. Hein.
D'accord.
Ça, de Touraine, c'est certain. Oui.
Et donc, vous nous décrivez déjà quelque chose qui nous donne envie d'aller voir la chapelle, si jamais on a l'occasion d'y rentrer. Aujourd'hui, parce qu'elle est constituée de deux parties,
oui.
Donc la partie la plus ancienne, ça serait la partie qui se trouve plutôt au fond en entrant ou...
Alors non, si vous voulez, l'histoire est très complexe et cette église a subi des vicissitudes au 19e. On n'en est encore pas là dans notre récit, mais en réalité... l'église allait jusqu'au trottoir, que toute la partie, tout l'avant, si vous voulez, avec les fleurs, etc.,
oui.
tout ce qui va jusqu'au trottoir, c'était l'église. En réalité, c'était ce qu'on appelait une basilique, c'est-à-dire un édifice rectangulaire, tout simple, au Xe siècle, voilà, c'était quelque chose de relativement simple. Et puis, au XIIe, on l'embellit, et on construit un chevet plat et on voûte le chevet. Donc en réalité, vous avez raison, il y avait deux parties, c'est-à-dire une nef rectangulaire basique et un chevet qui était derrière. Sauf que ce chevet, qui est très intéressant, il se trouve malheureusement pas devant, à notre vue, quand nous passons devant le monument, mais il se trouve à l'arrière. Et ce qui fait que, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais il est au fond, et vous avez raison, il y a un décrochement, hein, il y a un moment oui. où c'est plus haut, il y a vraiment le décrochement, et donc c'est à l'arrière que se trouve le chevet, qui est un peu plus ancien.
Est-ce que c'est l'endroit aussi où on peut y trouver, alors peut-être avec un regard très minutieux, j'ai entendu parler de fresques, de cavaliers, elles sont
alors,
toujours
ça,
visibles.
Ça, c'est vraiment le point le plus intéressant. C'est-à-dire que, déjà, nous avions trouvé des pierres avec des jolies barres de cette couleur, un peu ocrée, rosée, bon, des pierres, bon. Et puis, dans cette partie du chevet, qui est très haute, qui a été transformée au cours des siècles en grenier. Quand on y monte, et c'est un peu dangereux, mais enfin quand on y monte, là, on a évidemment découvert dès le début des fresques. Des fresques très, très anciennes, représentant des cavaliers avec des écus. Donc ça, c'est très... Même si on n'est pas très connaisseur, c'est vraiment facile de mettre, enfin, relativement facile de mettre une date. Et puis, un Christ en gloire, qui est aussi très beau. Alors, récemment, la communauté de communes de Gâtine-Choisy, le pays de Racan, a demandé à une chercheuse qui est spécialisée dans les fresques, de les regarder très précisément, de les redater à nouveau, ça avait déjà été fait, mais bon, de chercher s'il y en avait d'autres. Et je ne sais pas si elle a publié son travail, mais elle m'a envoyé quelques photos, et tout le chevet est en hauteur, enfin, tout le chevet du haut en bas possède des fresques du XIIIe siècle. Voilà.
D'accord.
Alors, est-ce qu'elles dépendent de l'église de Poncé-sur-Loire? Vous savez, pas l'église, mais de l'école de Poncé-sur-Loire. Ça, je ne peux pas le dire, je ne suis pas assez...
Alors, juste pour préciser, pour les auditeurs auditrices qui ne seraient pas du département. Poncé-sur-Loire, c'est pas en Indre-et-Loire, c'est en Sarthe, mais on est vraiment très limitrophe ici.
Voilà.
Poncé, c'est quoi? C'est une dizaine de kilomètres, enfin peut-être 15-20. Poncé-sur-Loire, on est à combien de kilomètres de
Oh,
nos jours?
c'est pas très loin, oui,
C'est
20
vraiment très.
kilomètres, les gens y vont facilement,
Ouais.
oui, c'est un lieu tout. C'est une balade touristique aussi, hein. Oui,
Voilà.
oui.
Et donc, datation donc, qui serait du XIIIe siècle, donc
Oui.
juste après la refonte très importante de l'église au
Voilà,
XIIe.
alors si vous voulez, il y a eu des travaux très sérieux de fait, c'est-à-dire que les premiers propriétaires, qui étaient des universitaires, ont contacté le département archéologie et territoire de l'université de Tours, et qui était à l'époque dirigé par M. Galinier, et il a envoyé trois étudiantes très compétentes, qui sont aujourd'hui d'ailleurs, qui ont des postes d'archéologues enfin bon, qui travaillent vraiment très très bien. Elles étaient au niveau, je pense, du master, enfin on dit master, maîtrise, mais autrefois. Et elles ont été 2 ans, hiver compris, à faire l'étude du bâti, c'est-à-dire à dater, à mettre des petites, faire un travail absolument formidable. Et elles avaient examiné ces fresques déjà, et elles les avaient datées, plus le travail récent de cette dame qui est spécialisée. Malheureusement, son nom m'échappe, mais je sais qu'elle a fait un travail très intéressant. Et donc voilà, ce sont des fresques du XIIIe siècle, et tout le chevet et d'autres parties du mur en sont couvertes.
D'accord. Et donc la deuxième date qui est indiquée sur la façade, c'est 16e siècle. Alors pourquoi cette autre date de 16e? C'est les derniers ajustements qui ont été faits au bâti? Ou après le 16e siècle, en fait, elle n'a plus bougé? Pourquoi
Ah ben
c'est.
si, si. Alors donc elle a bougé. On a dit tout à l'heure 10e, ensuite le chevet 12e, les fresques 13e, après la charpente début 15e.
D'accord, la charpente
C'était
qui est toujours. C'est
toujours
la
la même.
charpente qu'on peut voir,
Oui,
là.
c'est ce qu'on appelle une charpente en chêne à tirant ferme. C'est-à-dire que c'est très beau parce que ça évoque une charpente de
De
bateau
bateau,
presque.
oui.
Elle est très très belle, cette charpente. Si vous voulez, maintenant, c'est l'élément, comment dirais-je, c'est l'élément principal de la chapelle. La
C'est ce qui
charpente
séduit tout
est.
de suite quand on rentre, de toute
Voilà,
façon, elle est.
s'il n'y avait plus cette charpente, alors là, bon. Donc, cette charpente, c'est le dernier ouvrage qui a été fait dans cette chapelle. Et. Même chose, il a été daté par l'inventaire. Vous savez, l'inventaire, à un moment, on a pu bénéficier quelquefois de datation de l'inventaire à une période.
D'accord.
Et avec un procédé qui s'appelle Dando, enfin c'est un procédé très particulier, ils ont daté la charpente du début du XVe siècle. Voilà. Alors ça, c'est le dernier travail. L'église, à mon avis, enfin pas seulement à mon avis, est utilisée d'une façon un petit peu secondaire par rapport à l'église principale, mais enfin on a des tombes tout autour, c'est-à-dire que elle sert comme dans toutes les églises, on enterre autour jusqu'à relativement tardivement. Il y a des messes, etc., bien entendu. Et puis il doit arriver un moment où elle a probablement un rôle un petit peu secondaire par rapport à l'église principale, qui elle est beaucoup, bien sûr, plus grande, enfin bon, qui est tout à fait différente que l'église paroissiale. Et c'est au 19e siècle que tout, au 18e et au 19e siècle, que tout s'abîme, si vous voulez. Voilà.
Oui, on dit souvent qu'à la Révolution française, d'ailleurs, il y a eu des dégradations, en tout cas
Voilà.
du pillage. Je ne sais pas
Voilà.
si c'était le cas,
Alors,
mais.
à la Révolution, l'Église est vendue en 1793 comme bien national. Elle est vendue à un oiseau, commerçant de Tours qui en fait une fabrique de salpêtre.
Voilà. D'accord.
Bon, et c'est le début un petit peu de la fin. Bon, c'est-à-dire que elle est probablement très abîmée à ce moment-là. Et dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire au début du 19e, elle appartient à un noble catholique qui probablement pour la protéger l'achète. Bon, et à ce moment-là, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, et puis après, finalement, regardant les registres des délibérations de la commune, on comprend. Il se trouve qu'au même moment, le portail de l'église principale, l'église paroissiale, est en mauvais état. Et ce catholique fervent doit penser faire une œuvre. Il faut toujours se replacer en histoire dans le...
Dans l'esprit, enfin...
Dans l'esprit de l'époque.
La mentalité,
bon,
oui.
Et c'est un peu horrible ce qu'il a fait, mais d'un autre côté, il était lui-même cohérent. Donc, il décide de donner le portail roman, magnifique, un portail à trois voussures, qui se trouve... Si vous passez devant l'église Saint-Vincent, vous ne pourrez pas éviter de vous dire « Ah ben oui !» C'est-à-dire qu'on voit très bien que le portail a un décrochement, qu'il n'est pas encastré dans le mur, qu'il a un décrochement et que c'est un portail qui a été rajouté à l'église.
Ultérieurement, donc au 19e siècle.
Voilà. Donc, il décide de donner ce beau portail à l'église Saint-Vincent. Et à ce moment-là, malheureusement, ce n'est pas fait par des artisans spécialisés,
par des compagnons,
des
tailleurs de pierre.
Voilà, vous avez trouvé le mot. Et c'est sûrement pas étayé, c'est sûrement fait un peu à l'arrache. Et c'est toute la première partie, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'en fait elle allait jusqu'au mur, toute la première partie s'écroule, oui, et abîmé, si
oui,
vous
d'accord.
voulez. Donc, on ferme tout, et c'est ce qui vous explique ce mur quand vous arrivez, malheureusement...
La façade actuelle, oui.
De la façade actuelle, qui fait que le monument a l'air d'une grange et n'attire pas... Et voilà. Ensuite, il vend l'église à deux propriétaires différents qui vont ensuite, c'est dans leur famille que ça va se transmettre. Et ça devient une grange, une première partie, et la seconde partie, une autre réserve avec un logement d'ouvriers. C'est-à-dire que vous avez dans la partie anciennement chevet, vous avez tout à fait un document ethnographique de comment vivait un journalier, avec le paillage, la cheminée. Et puis, on construit un grenier. Et c'est ce qui vous explique que le chevet a été coupé. Donc là, il y a eu beaucoup de dégradations à cette époque. Mais ces familles ont eu à cœur de la... ils savaient, ces familles qui se transmettaient les deux parties, que c'était une ancienne église.
D'accord, oui. Hein? Il y avait une conscience qu'on avait
voilà,
là, quand même.
Alors que c'était oublié dans le village, si vous voulez. Moi, quand je suis arrivée, on ne la voyait pas, cette église. Elle était, cette chapelle, il y avait devant d'autres petites constructions un peu disparates. Il y avait Oui, je pense que beaucoup de gens avaient oublié sa
C'était un
présence.
logement, en fait. C'était, enfin, ou
Oui,
un lieu de stockage, mais...
voilà. Et alors, les deux familles qui la possédaient faisaient ce qu'elles pouvaient pour. Ils avaient conscience que c'était une ancienne église, ils le savaient. Donc, de la tenir à peu près en bon état. Voilà, voilà l'histoire. Et puis, à partir d'un moment, ils étaient très âgés, ils l'ont vendue. Ils l'ont vendue, voilà.
D'accord. Donc elle a été désacralisée au moment de la Révolution, finalement.
Oui,
Oui,
tout
c'est
à
ça.
fait, tout à fait. Oui, je ne sais même pas s'il y a eu une cérémonie. Vous savez,
Oui,
c'était un peu
c'est un peu
une
expéditif.
période de même, c'est le fondement de notre République. Et il y a eu des grands, grands moments. Mais là, c'était une période un peu. Je pense pas qu'on demandait des permissions. Hein. L'oiseau le marchand de Saint-Pêtre a dû s'installer comme ça. Mais voilà comment les choses se sont passées.
Et on est quand même étonné quand on trouve quelques informations sur Internet, voilà, sur des sites dédiés au patrimoine. Et j'ai cru comprendre que le monument avait été classé monument historique en 1992.
Voilà.
Et ça m'a beaucoup surpris que ça soit si tardif.
Alors, justement, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, ces deux familles, ces deux couples vieillissants, enfin âgés, qui possédaient chacun une moitié, étaient désireux de vendre. Bon. Alors, vendre à qui, comment, ça. On pouvait faire tout et n'importe quoi dans ce lieu. Et c'est à ce moment-là qu'un couple d'universitaires qui s'était retiré à Neuvy a décidé de la racheter pour en faire un lieu culturel. Et très très vite, la DRAC de la région Centre a. Bien sûr, ils avaient les textes, ils avaient tout, si vous
Oui.
voulez, à classer le monument. Alors, ce n'est pas monument historique, c'est à l'inventaire des monuments historiques.
D'accord,
Voilà, c'est un
d'accord.
classement moins lourd, voilà, mais qui la protège tout de même.
D'accord.